VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir et bienvenue à cette édition du jeudi 9 juillet 2015. À la une ce soir, l'ONU exhorte le gouvernement burundais à désarmer les Imbone Rakure, milices de l'organisation de jeunesse du parti au pouvoir. Pendant ce temps, la police ougandaise a arrêté deux futurs candidats à la présidentielle. Course contre la montre pour la Grèce. Les bailleurs de fonds ont donné à Athènes jusqu'à minuit pour proposer un programme concret et crédible de réforme et ainsi éviter la banqueroute.
Course contre la montre également à Vienne, en Autriche, où l'Iran et les puissances mondiales ont jusqu'à demain pour parvenir à un accord final sur le nucléaire iranien. Et c'est un nouveau jour en Caroline du Sud, déclare la gouverneure Nikki Haley après le vote d'une loi pour le retrait permanent du drapeau confédéré du Parlement de l'État.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Crise politico-militaire au Burundi, l'ONU exhorte le gouvernement à désarmer les Imbone Rakure, milice de l'organisation de jeunesse du parti au pouvoir. Devant le Conseil de sécurité, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a déclaré qu'il s'agissait d'éviter une explosion de violence meurtrière. D'après Zaid Raad al-Hussein, les forces de sécurité et les milices ont tué des dizaines de manifestants et de défenseurs des droits de l'homme en 2 mois. À quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 15 juillet, lors de laquelle le président sortant Pierre Nkurunziza briguera un 3e mandat controversé, les Burundais semblent se préparer à une explosion de violence meurtrière similaires à celles qui ont si souvent ravagé le pays, a-t-il averti.
La police ougandaise a arrêté deux futurs candidats à la présidentielle, parmi eux l'ancien Premier ministre Amama Mbabazi, qui se présente contre le président Yoweri Museveni. Nicolas Pinault.
Amana Mbabazi a été arrêté alors qu'il se rendait à un meeting pour rencontrer ses partisans à Mbale. Il a été interpellé à Njeru, à 75 km de la capitale Kampala, selon Andrew Felix Kawesi, commandant des opérations de la police ougandaise qui s'est exprimé sur une chaîne de télévision locale. Les forces de l'ordre ougandaises avaient prévenu qu'aucun meeting ne serait autorisé tant que le parti au pouvoir, le mouvement national de résistance, n'aurait pas décidé qui le représenterait à la prochaine présidentielle de 2016. Cette décision devrait sans doute être favorable au président Yoweri Museveni, 70 ans. Il dirige le pays depuis 1986. Et s'il y a peu de surprises à attendre de cette annonce, Amani Mbabazi devrait donc se présenter quand même au scrutin présidentiel. Autre arrestation ce jeudi, celle de l'opposant Kizza Besigye. Depuis la dernière élection en 2011, Besigye est souvent arrêté au cours de manifestations contre le gouvernement ougandais.
Les États-Unis ont sévèrement critiqué les dirigeants politiques du Soudan du Sud pour la reprise de la guerre civile alors que le pays fête ce jeudi le 4e anniversaire de son indépendance. Susan Rice, la conseillère à la sécurité nationale du président américain Barack Obama, en a imputé la responsabilité au président sud-soudanais Salva Kiir et à l'ancien vice-président et actuel chef des rebelles Riek Machar. Les précisions de Jacques Aristide.
Susan Rice écrit qu'elle a le cœur brisé. Pour cette ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies, il n'y a pas la même joie qui a accompagné l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Elle ne mâche pas ses mots. Au cours de l'année écoulée, dit-elle, le gouvernement sud-soudanais a abdiqué à ses responsabilités, a échoué à protéger ses citoyens et a perdu sa légitimité. Le gouvernement et les rebelles commettent des crimes épouvantables contre les innocents, femmes, enfants et personnes âgées. Salva Kiir et Riek Machar et leurs amis sont personnellement responsables de cette nouvelle guerre. Ils doivent immédiatement y mettre fin, exhorte Susan Rice. Mais difficile pour l'heure de voir cet appel entendu, car hier, le chef rebelle Machar a maintenu que la guerre civile continuerait tant que le président Kiir demeure au pouvoir. Toutefois, hier encore, le Parlement sud-soudanais a prolongé de 3 ans le mandat du chef de l'État.
L'armée nigériane dit avoir arrêté le cerveau des attentats qui ont fait des dizaines de morts. Selon le ministère nigérien de la Défense, le suspect a été interpellé en compagnie de 2 autres individus à un point de contrôle à Gombe, près du bastion de Boko Haram.
Burkina Faso, le président de la transition, devrait se prononcer ce soir sur la crise politico-militaire dans son pays. Hier, il a eu des consultations avec son premier ministre Yacouba Isaac Zida, Alors que les rumeurs font état de tensions entre ces deux dirigeants, le régiment de sécurité présidentielle, qui fut le bras armé de l'ex-président Blaise Compaoré, exige le limogeage du lieutenant-colonel Zida, qui est pourtant le commandant adjoint de ce régime d'élite.
Détention d'activistes de la société civile en République démocratique du Congo. Le Parlement européen demande la libération de Fred Bouma et Yves Makwambala, arrêtés mi-mars à Kinshasa. Les eurodéputés accusent le gouvernement congolais de chercher à anéantir les activistes et les organisations militantes et dénoncent les tentatives permanentes de limitation de la liberté d'expression en RDC.
En Éthiopie, à quelques semaines d'une visite du président américain Barack Obama, 6 journalistes et blogueurs détenus depuis plus d'un an ont été libérés.
Nouveau cas d'Ebola au Libéria. Le gouvernement compte 2 nouvelles personnes infectées pour un total de 5 cas confirmés. Le pays, qui croyait s'être débarrassé de l'épidémie, redoute désormais une nouvelle propagation du virus.
Et en Égypte, une bombe visant un bus transportant des policiers a explosé près d'Al-Arish, dans le nord de la péninsule du Sinaï. Bilan 20 agents de l'ordre blessés et un civil.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les négociateurs sur le nucléaire iranien travaillent d'arrache-pied en vue d'un accord de dernière minute après avoir, à 2 reprises, prolongé leur propre délai. Les puissances mondiales et l'Iran ont jusqu'à demain pour produire un document expliquant entre autres comment se fera la levée des sanctions internationales et l'ampleur de la vérification des activités nucléaires de Téhéran. Le secrétaire d'État américain John Kerry devait prendre la parole ce soir à Vienne pour offrir un état des lieux. Il s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe Sergueï Lavrov, après quoi le chef de la diplomatie américaine a confié à un journaliste que l'accord est techniquement compliqué et que les points les plus difficiles ne sont pas encore résolus. De hauts responsables américains et iraniens prenant part aux négociations ont exprimé leur espoir qu'une entente finale serait trouvée ce soir même.
Crise de la dette grecque, c'est la course contre la montre pour le premier ministre Alexis Tsipras, qui devait offrir ce soir un plan viable et crédible aux yeux de ses partenaires européens afin de maintenir la Grèce dans la zone euro. Lionel Gaïman nous en dit plus.
Si Athènes parvient à mettre sur pied un programme économique acceptable, le gouvernement grec bénéficiera d'un nouveau plan de sauvetage de 3 ans pour enflouer les banques en panne de réserve et assurer que le pays ne tombe pas en faillite. Les bailleurs de fonds, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et les voisins de la Grèce doivent revoir la proposition de M. Tsipras avant sa soumission à un sommet d'urgence des leaders européens dimanche. Le chef du gouvernement grec a promis un relèvement des impôts, probablement sur les grandes entreprises, les hôtels et les produits de luxe. Il prévoit aussi de mettre en œuvre immédiatement, lundi, des réformes du système de pension. La Grèce fera des propositions concrètes pour des réformes crédibles, avait promis Alexis Tsipras mercredi devant le Parlement européen. La réaction en Europe a été positive mais prudente. Une solution à la crise devient de plus en plus urgente. Les arriérés de la Grèce pourraient bientôt s'alourdir. Le pays doit rembourser 455 millions d'euros au FMI d'ici à lundi et 284 millions dans 3 semaines.
La Caroline du Sud s'apprête à retirer le drapeau confédéré de son parlement local. Ce drapeau, symbole de racisme pour beaucoup aux États-Unis, avait cristallisé les passions auprès de 3 semaines après le massacre dans une église commis par un jeune partisan de la suprématie blanche. Michel Joseph.
Après le Sénat, la Chambre des représentants de cet État du Sud des États-Unis a voté dans la nuit. Une très forte majorité de 94 voix contre 20 s'est prononcée en faveur du retrait du drapeau confédéré. Il fallait 2/3 des votes pour entériner la mesure. La décision, déjà adoptée mardi par le Sénat de Caroline du Sud, doit être transmise à la gouverneure de l'État, Nikki Haley, qui est favorable. Madame Haley pourrait signer le texte dès ce jeudi et demander le retrait du drapeau qui flotte depuis une quinzaine d'années à côté d'un monument en souvenir de la guerre de sécession dans les jardins du Parlement de Columbia, la capitale de l'État. Le drapeau pourrait donc être décroché vendredi. Le drapeau confédéré est revenu au cœur du débat après le meurtre de 9 paroissiens noirs le 17 juin. Le tueur Dylan Roof, partisan de la suprématie blanche, apparaît sur un blog sur des photos brandissant le drapeau confédéré, symbole de racisme pour nombre d'Américains.
Le pape François poursuit sa visite pastorale en Amérique du Sud. Lors d'une messe à Santa Cruz en Bolivie ce jeudi, il a dénoncé ce qu'il appelle une culture de rejet qui cherche à tout transformer en objet de consommation. Le président Evo Morales et les autorités boliviennes ont accueilli le premier pape jésuite et latino-américain de l'histoire hier après-midi à l'aéroport de La Paz. Le pape est attendu à Cuba et aux États-Unis en septembre prochain.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco ce soir avec Claire Morin-Gibourg.
Pas de progrès pour la participation des femmes au secteur salarié en Afrique de l'Ouest. Selon un rapport de l'ONG Plan International, la main-d'œuvre féminine salariée stagne entre 7 et 8% depuis 10 ans et les femmes ne représentent que 4% de la population active dans les secteurs professionnels et techniques. L'étude réalisée dans 12 pays de la région ouest africaine note que, bien que des changements positifs soient observés dans ces pays, la situation de la femme est stagnante et progresse avec une lenteur décourageante. Repli de 2% de l'emploi salarié en mai 2015 au Sénégal, selon les chiffres de la Direction de la prévision et des études économiques, une baisse imputable aux pertes nettes d'emplois enregistrées dans le secondaire, notamment dans l'industrie, avec moins 5,1%. Le secteur des BTP reste, lui, en hausse de 4,4%. L'Indonésie veut investir dans les infrastructures et l'agriculture au Nigeria. Par la voix de son ambassadeur à Abuja, l'Indonésie a affirmé vouloir signer un accord de partenariat avec le Nigeria pour l'aider à développer ses infrastructures et augmenter sa production agricole en développant l'agriculture mécanisée. Compte tenu de la forte population des deux pays, les dirigeants indonésiens et nigérians doivent faire de la sécurité alimentaire leur priorité, a précisé le diplomate.
Voilà pour l'économie. Merci Claire Morin-Gibourg.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Tirage au sort du tournoi de football et des Jeux africains.
Le tirage au sort du tournoi a été effectué ce jeudi au Caire, au siège de la Confédération africaine de football. Le Congo, pays organisateur, est épargné dans le groupe A avec le Soudan, le Zimbabwe et le Burkina Faso. Alors que le second groupe est considéré comme le groupe de la mort, tenez-vous bien, le Ghana, le Sénégal, l'Égypte et le Nigeria. Je vous rappelle que les Jeux africains débuteront en novembre à Brazzaville, la capitale congolaise.
Argentine, première nation mondiale de football, c'est officiel.
En dépit de sa défaite en finale de la Copa América face au Chili, l'Albicéleste a pris la première place du classement FIFA au détriment de l'Allemagne championne du monde en titre. Prenant en compte la première journée des éliminatoires de la CAN 2017, cette édition est riche en évolution. Côté africain, à noter que l'Algérie, leader continental, est 19e, la Côte d'Ivoire qui gagne 3 places est 21e, l'Algérie, la Côte d'Ivoire qui sont désormais devant la France au classement FIFA. Le Ghana, 25e, repart à la hausse, tout comme le Cameroun, autre mondialiste ayant bien démarré sa campagne de qualification. Ça recule en revanche pour la Tunisie, le Sénégal et le Congo qui sont quand même dans le top 50 des nations du football mondial. Malheureusement, le plus gros recul pour la Centrafrique, moins 29 places, 170e, et la plus belle progression pour le Swaziland, plus 24 places à la 138e place.
Tennis, tournoi de Wimbledon.
La numéro 1 mondiale Serena Williams, grâce à une puissance diabolique, a encore maté la Russe Maria Sharapova en 2-7, 6-2, 6-4. Ce sera la 8e finale à Londres pour la cadette des sœurs Williams, qui vise une 6e couronne et un 21e titre en Grand Chelem pour se rapprocher un peu plus du record de l'Allemande Steffi Graf. L'Américaine de 33 ans, victorieuse de l'US Open l'été dernier, de l'Open d'Australie et de Roland-Garros cette saison, affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza, 20e joueuse mondiale. À 21 ans, l'Espagnole s'est qualifiée pour sa première grande finale en tournoi du Grand Chelem en éliminant la Polonaise Agnieszka Radwanska en 3-7, 6-2, 3-6, 6-3.
Et enfin, 6e étape du Tour de France cycliste.
Le Tchèque Zdeněk Stybar a enlevé l'étape ce jeudi au Havre, marqué par la chute de son coéquipier allemand Tony Martin, porteur du maillot jaune. A noter que pour la première fois dans l'histoire, un coureur d'Afrique subsaharienne, l'érythréen Daniel Teklaï Manot, a endossé un maillot distinctif, le maillot à pois rouge, qui désigne le leader du classement de la montagne, le meilleur grimpeur, Morgan.
Voilà pour les sports, merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Romain Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Burkina Faso.
Au retour ce soir sur la crise politique dans ce pays, on attend toujours que le président de la transition se prononce, s'il ne l'a pas encore fait, sur le maintien ou non du premier ministre Isaac Zida à la tête du gouvernement. Le RSP, l'ancienne garde de Blaise Compaoré et la hiérarchie de l'armée, demande sa démission depuis la semaine dernière. Mais lundi, M. Zida avait déclaré à la presse à Ouagadougou qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Pour une analyse, Bagasikoura a joint Dieudonné Zungrana. Il est directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso.
Pratiquement toute l'armée exige aussi le départ du Premier ministre. Et pas plus tard qu'il y a 48 heures de cela, il y a l'ex-opposition qui a rejoint justement le RSP et qui veut aussi le départ du Premier ministre. Autrement dit, aujourd'hui, bon, c'est un Premier ministre sous pression. Mais il y a aussi quand même une grande partie des Burkinabés qui veulent quand même sauver la transition.
Parce que beaucoup de gens voient dans le départ de Zida un certain péril pour la transition et surtout le maintien de la date des élections qui sont prévues le 11 octobre.
Oui, éventuellement, parce que les gens disent non, bon, Zida peut partir et puis il n'y aura pas de chamboulement du calendrier électoral, mais ce n'est pas évident. Parce que si Zida démissionne, c'est tout le gouvernement. Donc il faut nommer un nouveau gouvernement, un nouveau ministre de l'administration. Comme je dis, au pire, il y aura un recul de la date des élections.
Pas seulement le RSP, mais aussi l'armée, hein, la hiérarchie militaire demande le départ de Zida. Est-ce qu'on connaît les raisons?
Bon, pour le RSP, c'est clair, le RSP pense que Zida les a diabolisés. Bon, il faut reconnaître que le RSP, compte tenu d'un certain passé, n'a pas bonne presse. Mais je crois que ce qui a mis le feu aux poudres récemment, c'est que Zida accuse le RSP d'avoir voulu fomenter un coup contre lui lorsqu'il revenait de Taïwan dans la nuit du 29 au 30 juin dernier. De ce qu'on entend, il semble que l'armée a rejoint le RSP parce qu'il pense que Zida, aujourd'hui, ne remplit plus la fonction. Bon, qu'il est censé remplir. Bon, on l'accuse entre autres aussi d'avoir fait une tournée dans les garnisons. Bon, ce qui a vraiment, il a posé un certain nombre d'actes et la grande nuée, on n'est pas d'accord avec ça.
Traditionnellement, l'armée et le RSP, généralement, ils ne sont pas du même bord.
Oui, justement, mais pour cette fois-ci, en tout cas tout dernièrement, il semble qu'il y a eu une réunion avec toute la haute hiérarchie militaire. Cette fois-ci, en tout cas, cette armée et le RSP ont parlé d'une seule voix.
Un silence qui s'est fait quand même remarquer, hein, c'est celui des politiques, les partis et notamment les ténors qui sont candidats pour ces élections-là, qui parlent très peu.
Effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a un silence pratiquement gênant de la part des politiques qui souvent ne se prononcent pas de façon franche ou bien font des sorties mitigées sur la conduite de la transition et sur le comportement des militaires ou bien de certains OFC. Ça, c'est dommage vraiment.
On écoutait Dieudonné Zungrana, directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Le sous-secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en tournée en Afrique de l'Ouest. Après le Nigeria, il est allé au Niger aujourd'hui pour discuter avec les autorités de la coopération bilatérale et des questions sécuritaires et humanitaires. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
C'est une visite de quelques heures que Anthony Blinken a effectuée au Niger. Elle lui a permis tout de même d'échanger avec les autorités nigériennes, le chef de l'État en particulier, sur la coopération bilatérale, mais surtout sur les questions d'actualité que sont la lutte contre le terrorisme, en particulier contre la secte islamiste Boko Haram, l'action humanitaire, mais aussi la situation des milliers de réfugiés qui sont sur le territoire nigérien.
Nous respectons et apprécions le leadership du Niger dans la région et l'engagement de ses forces de défense et de sécurité à faire face aux menaces nationales et régionales. Nous travaillons ensemble contre Boko Haram, nous travaillons ensemble pour la paix au Mali, nous travaillons ensemble pour un gouvernement d'accord national au Libye. Et nous sommes profondément reconnaissants au peuple du Niger pour sa générosité vis-à-vis plus de 150 000 réfugiés ressortissants de retour qui ont retrouvé au Niger
un refuge contre la violence des terroristes tels que Al-Qaïda au Maghreb islamique et Boko Haram.
En 2016, le Niger va organiser des élections générales. C'est aussi une préoccupation pour les États-Unis d'Amérique pour qu'elles soient les plus démocratiques possibles, avec le président de la République, le vice-secrétaire d'État américain l'a évoqué aussi.
Nous venons du Nigeria, où l'élection historique et la transition du pouvoir ont fait une grande impression dans la région, à travers le continent et en fait à travers le monde entier. Vos élections en 2016 représentent une autre occasion historique de renforcer votre transition démocratique. Mais ce n'est pas seulement la question du jour de l'élection qui compte, mais tous les jours qui mènent au scrutin. Et il faut effectivement, dès maintenant, établir un processus équitable et juste, caractérisé par l'inclusion et l'accès aux médias et au peuple. Là aussi, nous avons entendu de la part du président une grande conviction pour cette démarche et pour cette voie.
Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Cap maintenant sur le Rwanda. Audience hier à la Cour suprême sur l'action initiée par le Parti démocratique vert contre un projet de modification de la Constitution en faveur d'un troisième mandat du président Paul Kagame. Constitué d'anciens réfugiés rwandais en Ouganda et de transfuges du parti au pouvoir, cette formation d'opposition veut aussi ramener la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, mais dit avoir du mal à trouver des avocats pour défendre son dossier. Timothée Dunangmaï a recueilli l'analyse de Maître Innocent Twagiramungu, avocat à Bruxelles.
Même si c'est un petit parti, mais vu sa capacité de débaucher les membres du FPR, on peut dire que c'est un parti qui peut effectivement inquiéter les autorités. Et c'est pour cela que la plupart des membres de ce parti ont été menacés, dont notamment son ancien président André Kalwa, qui a été assassiné, décapité au Rwanda. Et on soupçonne les autorités d'avoir joué un rôle majeur dans cet assassinat, ce qui montre quand même que c'est un parti qui a un poids important qui peut inquiéter les autorités.
Quelles sont les chances que la justice rwandaise donne raison au parti des Verts dans cette affaire?
On peut se douter de la crédibilité des juges qui sont inféodés au régime et qui pourraient prendre décision de complaisance pour ne pas inquiéter le président. Mais je pense que ce que les autorités redoutent le plus, c'est le débat. Et vraiment, il y a un débat contradictoire et qui est suivi par le monde entier sur cette question et à la Cour suprême. C'est ça qui est craint et je pense que les pressions qui ont été exercées sur les quatre avocats qui ont été approchés par le Parti vert à des dates différentes expliquent cet état des choses. Il y en a qui ont carrément exprimé qu'ils ont été menacés de mort. On peut donc penser que les autorités veulent vraiment étouffer cette contradiction, vu déjà que les autorités se sont lancées dans la campagne.
Quel est l'enjeu d'une décision judiciaire dans cette affaire?
Si le Parti vert ne parvient pas à avoir une décision satisfaisante à la Cour suprême, tout le monde qui est intéressé, que ce soit le Parti vert ou d'autres partis ou n'importe quel citoyen rwandais, peut saisir des instances internationales, la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est qui se trouve à Arusha, ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ou même éventuellement à la justice de la Commonwealth. Et donc, si on n'a pas des décisions au Rwanda en dernier ressort, cette possibilité de contester la modification qui serait illégale au niveau international serait aussi anéantie.
Maître Innocent Twagiramungu au micro de Timothée Donangmaï.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Lancement ce jeudi à Dakar du rapport 2015 de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement sur le développement économique en Afrique. L'édition 2015 examine certains des principaux enjeux qui touchent le secteur des services à travers le continent. Il propose une série de recommandations quant à la manière de développer ce secteur de sorte qu'il contribue à l'intégration régionale en Afrique, crée des emplois et génère une croissance équitable et solidaire. Pour plus de précisions, on écoute l'économiste Bineswar Bolaki de la section Afrique de l'ACNUSED.
Dans le rapport, nous soulignons que le secteur des services en Afrique recèle un fabuleux potentiel économique. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce que nous avons constaté qu'il y a à peu près 21 pays africains qui ont une part de services dans leur PIB de plus de 50%, que le taux de croissance réel du secteur des services pour la période 2009-2012 en Afrique a été au moins deux fois supérieur au taux de croissance moyenne au niveau mondial, et que le secteur des services contribue à plus ou moins 32% de l'emploi formel en Afrique. Et si on incluait le secteur informel, dans certains pays, cela pourrait atteindre deux tiers. Or, ce que nous constatons, c'est que oui, il y a un secteur des services qui existe bel et bien en Afrique, mais il y a un potentiel qui peut être libéré.
Mais alors justement, pourquoi ce potentiel n'a pas été libéré ?
Eh bien, tout d'abord, parce qu'il y a, comme vous le soulignez, il y a des contraintes que doit faire face le secteur des services. Par exemple, dans le domaine des services d'infrastructure, l'eau, l'énergie, le transport, tout le monde est très au courant que le niveau d'infrastructure des services n'est pas élevé en Afrique, qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont un problème d'électricité, etc. Et donc certainement, il y a une contrainte qui freine le potentiel de ce secteur des services. Et une contrainte que nous dénotons, c'est justement qu'il y a un manque de réglementation efficace dans le domaine de la provision des services d'infrastructure.
Mais est-ce que ce sont les seules contraintes ?
Une deuxième contrainte, c'est que le secteur des services existe, mais c'est un secteur des services qui a tendance à être à valeur ajoutée basse parce que c'est un secteur des services qui est peu productif, qui n'a pas vraiment réussi à franchir le cap, à aller vers des sous-secteurs où il y a une productivité forte, où il y a une valeur ajoutée haute. Et puis, troisième contrainte, c'est que le secteur des services en Afrique étant peu efficace, où il y a un problème de qualité, où il y a un problème de coût élevé, ce secteur de services, jusqu'à présent, n'a pas réussi à contribuer à soutenir le processus de transformation structurelle en Afrique. Et il faut des politiques pour bâtir des complémentarités entre l'agriculture et le secteur manufacturier et le secteur des services, car les services sont un intrant dans l'activité manufacturière, l'activité agricole. Et pour que le secteur agricole et le secteur manufacturier en Afrique puissent devenir plus compétitifs, eh ben ce secteur des services devra aussi devenir plus compétitif.
L'économiste Bineswar Bolaki de la CNUSED au micro de Camille Grosdidier.
Salut les amis, ici Roger Moutou, VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, African Music. Notre invité de ce soir, l'artiste camerounais Kabongo. Nous allons aussi continuer avec notre sujet de cette semaine, le panier de la ménagère, le prix des denrées alimentaires dans votre pays. Que coûte quoi chez vous les amis? Vos opinions sur notre page Facebook VOA Afrique. J'attendrai aussi vos SMS au plus 225 58 92 85 40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Un coucou aux amis de Bamako au Mali qui nous écoutent sur 102 FM. Peace Africa!
Cette édition touche à sa fin. On remercie Lionel Gaïma qui a assuré ce soir la mise en onde. Notre ami Rob McLean était à la console. Présentation Morgane Guiriac et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.